RTN Info, le journal Gaëtan Procureur, bonsoir.
Bonsoir. L'ancienne école d'ingénieurs du Loc va retrouver une vraie dimension 20 ans après sa fermeture. Le bâtiment sera assaini. Une centaine d'étudiants de l'EH Arc y seront réunis et un important développement de MicroCity prendra aussi place. Des entreprises échappent au canton de Neuchâtel, faute d'espace adéquat. Voilà l'argument avancé par le Conseil d'État face au recours déposé contre le pôle économique de l'Athènes. L'équipe de Suisse de football disputera l'Euro 2024 avec Murat Yakin sur le banc. Le sélectionneur a été confirmé à son poste par l'ASF cet après-midi, malgré une fin de campagne de qualification peu convaincante. Météo, la matinée de demain s'annonce bien ensoleillée. Les nuages vont toutefois prendre de plus en plus de place au fil de la journée. Les températures seront froides. L'ancienne école d'ingénieurs va pleinement revivre au Locle. Le canton a présenté cet après-midi le projet d'assainissement du bâtiment. Ce projet, dont le coût n'est pas encore chiffré, pourrait être achevé en 2028. Il devrait accueillir une centaine d'étudiants de la haute école Arc Ingénierie par un regroupement des deux sites, Chaudefonnier et Loclois actuels. Les Loclois auront donc dû patienter 20 ans après le déménagement de l'école d'ingénieurs à Neuchâtel pour que le canton revienne chez eux. Écoutez la satisfaction du conseiller communal Loclois en charge du dossier, Cédric Duprat.
Oui, effectivement, on répare finalement une erreur historique avec le départ, on se souvient, en 2006-2008 de l'école d'ingénieurs. À l'heure actuelle, des perspectives par rapport à une des dernières friches industrielles en ville du Locle, avec le renforcement de la HE Arc sur site, la rénovation projetée de l'ensemble du bâtiment Hôtel de Ville 7.
L'assainissement des deux bâtiments situés à l'avenue de l'Hôtel de Ville 7 au Locle a fait l'objet d'un mandat de 3 études parallèles. L'équipe lauréate est dirigée par Cédric Scherer. L'architecte nous décrit son projet.
Alors, le bâtiment d'origine a été construit par Fessler en 2 étapes. Une première étape à l'est, qui était un bâtiment plutôt de facture des années 50. Et puis après, le brutalisme et le postmodernisme ont commencé à pointer du nez pour l'aile ouest. Donc il y avait une sorte d'incohérence stylistique entre les deux parties, sauf le socle qui les liait, qui nous a servi d'indice en fait pour se dire que nous on allait rétablir une image unitaire du projet, c'est-à-dire emballer le tout d'une peau qui va aller assembler les deux parties pour que ça devienne un seul bâtiment plutôt que la composition de deux bâtiments. Et ça permet de revenir au langage du plan Juno, c'est-à-dire le langage de barre de l'UNESCO en fait.
Une esplanade paysagère sera créée entre le bâtiment assaini et le voisin, le pôle technologie et industrie du centre de formation professionnelle neuchâtelois. Un autre locataire de la HE Arc emménagera en 2028 à MicroCity. Il s'agira d'un développement important pour le pôle d'innovation du canton de Neuchâtel. Il va y créer un centre de compétences dédié au métier de l'horlogerie. Jean-Marc Gruner, directeur de MicroCity.
On travaille en collaboration avec les partenaires académiques, ils font vraiment la partie recherche et nous, on fait la gestion. On est utile quand des projets sont complexes et que les marques horlogères ne trouvent pas de solution à des problèmes qu'ils ont et à des problèmes d'innovation. On travaille avec les sous-traitants, on travaille avec des grands groupes comme aussi des marques autonomes. L'idée, c'est aussi de donner la possibilité à d'autres domaines d'interagir avec ce domaine de l'horlogerie en amenant ainsi des nouvelles technologies. Alors, MicroCity a déposé une requête au CEFRIP, le secrétariat d'État pour la recherche et l'innovation et la formation, pour devenir institut de soutien à la recherche dans le monde justement des métiers d'art et de l'horlogerie. Et cette requête, elle est justifiée parce qu'on se trouve au Locle dans le berceau de l'horlogerie et qui se trouve parfaitement positionné entre Genève et Schaffhouse.
Un dossier de Vincent Costet, une vingtaine d'entreprises sont déjà partenaires du projet. On est en train de perdre de belles opportunités. Le Conseil d'État neuchâtelois réagit au recours déposé au tribunal cantonal concernant le pôle économique prévu à l'Athènes. L'association L'Athènes en transition a pris la décision de porter le dossier en justice la semaine passée, après que le Conseil d'État ait levé toutes les oppositions. Vos précisions, Sonia Bernauer-Milla.
Pour les opposants, ce projet symbolise une économie déconnectée de la réalité à l'heure du réchauffement climatique. L'association L'Athènes en transition dénonce la volonté du gouvernement d'utiliser 23 hectares de terres agricoles pour en faire un pôle économique. Les opposants ont sollicité l'expertise d'un professeur de démographie de l'Université de Genève qui estime que la vision du Conseil d'État est trop optimiste. Le gouvernement prévoit l'implantation de 3000 emplois et de 500 habitants dans la zone. Le conseiller d'État en charge de l'économie, Alain Ribaud, maintient ses projections. Il estime que ce troisième pôle garde toute sa pertinence. Alain Ribaud.
Je ne connais pas alors cette expertise qui apparemment aurait été sollicitée par quelques opposants. De sûr, le tissu économique sait qu'on n'a pas de disponibilité et fait l'objet de démarches quand même de plus en plus actives de ceux qui nous entourent. On a une nouvelle zone économique à Bienne, on a Gampelen qui est très actif ces temps, et puis Yverdon où il y a encore de la place dans Y Park. C'est là l'exemple le plus triste pour nous, une entreprise pharmaceutique de bonne taille dont le directeur était très favorable à une implantation sur Neuchâtel. On n'a pas trouvé de terrain pour lui. Le pôle de l'Athènes était encore trop lointain et on a perdu cette belle usine qui est aujourd'hui construite avec les impôts qui vont avec les emplois qui vont avec, dans un domaine porteur, c'est à Yverdon aujourd'hui.
Et face aux procédures lancées en justice, Alain Ribaud déplore le temps qui passe, mais c'est ainsi que fonctionne notre démocratie, dit-il. Il espère que le sort du pôle économique sera scellé d'ici une année et demie. Les opposants ont quant à eux d'ores et déjà fait part de leur intention de porter l'affaire jusqu'au tribunal fédéral si nécessaire.
Merci Sonia. La saison de ski alpin démarre sous les chapeaux de roue dans la région. Le téléski de la Corbatière et le Babylift reprendront du service demain dès 13h grâce aux récentes chutes de neige. Du côté des Bugnonnais-Savanières, les téléskis de Fornel et du Petit Marmet seront également en fonction dès demain à 13h. A noter que le parking du domaine côté bernois sera payant dès vendredi. Les tarifs iront de 1 franc pour une heure à 5 francs pour la journée. La Suisse peut faire face à une pénurie alimentaire durable. Elle a assez de bonnes terres cultivables pour assurer l'approvisionnement de sa population. Les surfaces d'assolement ont été répertoriées pour la première fois par la Confédération. Elles représentent 11% de l'entier du territoire. Ces terres agricoles très productives sont surtout recensées sur le plateau. Les précisions de Bernard Belk, sous-directeur de l'Office fédéral de l'agriculture.
50% des surfaces d'assolement sont répertoriés dans la zone de plaine, ce qui est évident. Le reste est répertorié aussi dans les zones de collines et les zones de montagne. Mais c'est principalement effectivement dans les zones de plaine. Et puis chaque canton a son contingent qu'il doit respecter. Alors évidemment les grands cantons, les cantons de Berne, les cantons de Turgovie, le canton de Vaud, le canton de Fribourg ont des surfaces qui sont extrêmement importantes en surface d'assolement.
Et ça veut dire que c'est les cantons qui sont responsables du maintien de ces surfaces? Est-ce qu'ils ont un soutien de la Confédération?
Effectivement, la responsabilité du maintien de ce contingent est du ressort des cantons. Alors effectivement, il y a un soutien au niveau de la Confédération. Donc il y a un projet pour faire une cartographie des sols à moyen terme. Donc il y a encore des discussions au niveau du Conseil fédéral. Et là, ça va aussi permettre peut-être d'identifier de nouvelles surfaces d'assolement.
Des propos recueillis par Marie Vuhemier. En cas de pénurie durable, ces surfaces doivent être rapidement disponibles. Elles devraient accueillir des cultures de pommes de terre, de blé, de colza et de betteraves sucrières, des aliments particulièrement caloriques. L'Organisation de défense des droits humains, Amnesty International, critique la manière dont la Suisse traite des ONG palestiniennes. L'arrêt de la collaboration avec trois d'entre elles alimente la méfiance envers la société civile palestinienne. Le Conseil fédéral n'a pas suffisamment motivé sa décision de résilier les contrats, estime Amnesty, car il n'a pas expliqué quelles déclarations des organisations étaient considérées comme des discours de haine. La Finlande va fermer son dernier poste frontière encore ouvert avec la Russie. La fermeture de ce point de passage situé au nord du pays interviendra dans la nuit de mercredi à jeudi et durera jusqu'au 13 décembre. Le pays nordique accuse Moscou d'orchestrer une crise migratoire.
Et à l'écoute d'RTN, il est 18h10.
Sport. La décision était très attendue, elle est tombée cet après-midi. Murat Yakin reste l'entraîneur de l'équipe de Suisse. Il a été confirmé dans ses fonctions de sélectionneur par l'Association Suisse de Football. Il dirigera donc la Nati lors de l'Euro 2024 en Allemagne l'été prochain. Jean-Paul Pichy.
La décision fera couler beaucoup d'encre et ne manquera pas de faire jaser. Alors que bon nombre d'observateurs et d'experts du football suisse, tout comme la presse nationale, réclamaient sa tête, l'ASF a pris tout le monde à contre-pied en maintenant sa confiance envers Murat Yakin. Les dernières prestations, peu convaincantes, pour ne pas dire médiocres, semblaient avoir scellé le sort de l'ex-entraîneur de Schaffhouse, d'autant que les leaders de l'équipe ne donnaient plus l'impression d'adhérer aux idées de leur coach. L'ASF mentionne dans son communiqué que sous la direction de Murat Yakin, l'équipe nationale a atteint tous les objectifs fixé par le contrat, notamment la qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'atteinte des huitièmes de finale dans cette même épreuve, le maintien dans le groupe A de la Ligue des Nations et donc la qualification pour l'Euro 2024 en Allemagne. Les dirigeants du football suisse ajoutent que tout sera mis en œuvre pour être prêt à représenter le pays avec succès l'été prochain. Pour y parvenir, tous les domaines qui peuvent être améliorés seront passés au crible. Le directeur de l'équipe nationale, Pierluigi Tammi, précise que Murat Yakin a montré, avec des solutions concrètes, comment il entendait faire progresser l'équipe et le staff. Il ajoute qu'il a convaincu la SF qu'il restait l'homme de la situation pour le poste de sélectionneur de l'équipe de Suisse.
Une fois l'Euro terminé, une évaluation sera faite par l'ASF afin de définir les prochaines étapes. Young Boys peut assurer son avenir européen dès ce soir. Les footballeurs bernois reçoivent les Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade à 21h en Ligue des Champions. Ils ne peuvent plus se qualifier pour les huitièmes de finale, mais une victoire leur assurerait la troisième place du groupe. IB serait alors reversé en Ligue Europa. À l'aller, les champions de Suisse avaient fait de partout face aux Serbes. L'exploit est donc possible selon leur entraîneur Raphaël Vicky.
Le match qu'on a joué là-bas doit nous donner confiance. Nous avons vu que nous étions à la hauteur, que nous avions presque gagné, que nous avions fait un bon match et que nous étions créé plusieurs bonnes occasions. C'est ainsi que nous voulons aborder la rencontre de ce soir. C'est en jouant avec le même état d'esprit que nous pourrons réaliser quelque chose de grand en étant toujours européens le printemps prochain. Nous sommes sur un pied d'égalité avec eux tout en sachant que c'est une équipe très forte qui a beaucoup de potentiel offensif.
Coup d'envoi de Young Boys Étoile Rouge à 21h. Réaction d'après-match à retrouver demain dans la matinale. Le HC La Chaux-de-Fonds va tenter de confirmer. Après sa large victoire sur Viège samedi, c'est une autre équipe valaisanne qui attend le HCC ce soir. Le champion en titre de Swiss League va affronter le néo-promu Martigny à 20h. Dans l'équipe valaisanne, les Abeilles vont retrouver une de leurs ancien coéquipier, Leonardo Fourreur. L'attaquant vit un début de saison face sous les couleurs de Martigny. Top scorer, il comptabilise 14 goals et 10 assists en 24 rencontres. Avant de retrouver ses anciens coéquipiers, il nous livre son regard sur l'équipe chaudefonnière, Leonardo Fourreur.
C'est clair, sur le papier, j'avais l'impression que Chaux-de-Fonds s'est quand même aussi amélioré. Ben après, ça reste qu'il reste beaucoup de joueurs blessés et que Chaux-de-Fonds avait un départ un peu plus difficile, mais j'en doute pas que Chaux-de-Fonds va retrouver sa forme. Je sais que Chaux-de-Fonds va trouver un moyen de se rabattre avec la difficulté qu'ils ont eu en début de saison. Et je suis persuadé que ça va bien terminer pour eux.
Est-ce que, en étant chez le néo-promu et non pas chez le champion en titre, vous avez moins de pression?
Moi, j'aurais vraiment aimé pouvoir poursuivre cette saison avec le HCC pour savoir comment c'est ce sentiment être l'équipe chassée du championnat. Mais après, les plans, ils ont changé. Je suis arrivé à Martigny. C'est un autre rôle avec une autre pression qui est pas non plus très facile à gérer. Et on essaye de faire le mieux, mais c'est clair que c'est un challenge pour les joueurs qui sont restés là-bas de reconfirmer ça. Mais il y a des pressions autant de restant au HCC comme il y a des pressions et des attentes en allant à Martigny.
Leonardo Fourreur répondait au téléphone de Lydiane Guéna. Martigny HCC, un match à vivre en direct sur RTN dès 19h45 en compagnie de Guillaume Joly. En tennis, Dominique Stricker rate son entrée au tournoi Next Gen ATP Finals. Lors de la première journée de ce Master réservé aux 8 meilleurs joueurs de moins de 22 ans, le Suisse s'est incliné aujourd'hui 4-2, 3-4, 4-1, 4-2 face à l'Italien Flavio Coppoli. Pour son prochain match, Dominique Stricker affrontera un autre Italien, Luca Nardi. Bon début de soirée à notre écoute.